Patriarca, 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 patrie, patriarca, patrie.
La parole est mienne, pour les miens, pour que le beat tienne, le micro en main, que mon message parvienne.
C'est la révolte des femmes de ménage, des camionneuses et des petites filles bien sages.
Whatever Lola wants, Lola gets.
Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste.
I wanna be a butch, I wanna be a butch. Cause butchs are strong and sensitive. Butchs are sexy and wonderful, powerful and brave and queer and straight, nice and whole.
Et on se prend la main. Et on se prend la main. Une fille en masculin. Un garçon en féminin.
Dégenré, l'émission pour
déranger.
Une émission féministe.
Les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois
de 18h30
à 20h
sur Radio Kaleidoscope
97 FM.
1h30 de féminisme pur.
Bonsoir, vous écoutez Dégenré, une émission féministe sur le 97 FM, faite par des meufs, des gouines et des trans. Alors aujourd'hui, on va parler de la prise en compte, ou justement de l'absence de prise en compte des rapports d'oppression, principalement de sexe, de race et de classe, et de l'imbrication donc de ces rapports, ainsi que du contexte historique, colonial et néocolonial. Et comment justement ces questions-là sont abordées ou peu abordées réellement dans les mouvements féministes français, que ce soit dans des mouvements militants ou plus au sein de l'université.
Pour cela, nous avons une invitée. Bonjour Nassima Moujoud, vous êtes maîtresse de conférence en anthropologie à l'université Pierre Mendès France de Grenoble. Et membre de l'équipe Société et Territoire au laboratoire de recherche historique de Rhône-Alpes, qui est à Grenoble. Vous êtes l'auteur de plusieurs articles, comme « Peut-on faire de l'intersectionnalité sans les ex-colonisés ?» écrit avec Fatima Aïd Ben Madani, ainsi que, entre autres, « Femmes sans papiers et exilées dans les mobilisations féministes, les limites de la solidarité formelle ».
Voilà, alors avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet, on va essayer de définir très rapidement ce que c'est l'intersectionnalité. Donc c'est un outil d'analyse qui permet d'analyser l'imbrication des différents rapports d'oppression de sexe, de race et de classe. C'est l'idée que ces différentes oppressions s'entrecroisent et qu'on ne peut pas les séparer. Et c'est un outil qui vient notamment du black féminisme, donc il y a un mouvement féministe états-unien des années 70 où des femmes et des lesbiennes noires ont interpeller le racisme au sein du mouvement féministe majoritairement blanc et ont développé un féminisme qui prenait en compte les différentes oppressions de sexe, de race et de classe. Et un des apports majeurs de l'intersectionnalité, c'est le point de vue situé. Donc c'est l'idée de, au sein de l'université, de réfléchir à sa position en tant que chercheur. Et c'est aussi l'idée que nos analyses, nos visions et notre rapport au monde sont en fonction de nos identités de sexe, de race et de classe. Et donc on n'a pas, y a pas de point de vue neutre qui existe.
Et on va commencer par écouter un morceau.
Oui, alors c'est une chanson de nostalgie, une chanson d'exil qui est chantée par une amie qui s'appelle Nadia. Alors Nadia, si tu écoutes cette émission, merci d'avoir transmis ce chant. C'est un chant qui s'appelle Alaiki Mini Salem, qui veut dire « Je te salue, ô patrie de mes ancêtres, que la vie est douce à tes côtés, qu'il m'est agréable de te chanter ». J'ai aimé en toi l'aube et la joie de l'assemblée. J'ai aimé la lumière de la lune et l'étoile indicatrice. Et la nuit lorsqu'elle s'installe et la rivière et la vallée. Voilà, alors on va écouter cette jolie chanson.
Ahbabtu fiki sahar wa bajat an-nadi Ahbabtu daw al-qamar wal-kaw كوكب الهادي والكوكب الهادي والليل لما استقر والنار والوادي والصبح لما انتشر في أرض أجدادي في أرض أجدادي أهوى عيون العسل أهوى سواقيها أهوى تلوج الجبال ذابت لياليها ذابت لياليها عليك مني سلام يا أرض أجدادي ففي كتاب المقام وطاب إنشادي وطاب إنشادي.
Vous êtes bien sur Dégenré, sur Radio Kaleidoscope 97 FM, une émission féministe pour Dégenré. Et aujourd'hui, nous avons une invitée, Nassima Moujoud, pour parler de la question de l'intersectionnalité. Donc, pour commencer, on voulait te demander un peu comment a émergé l'intersectionnalité en France.
Oui, merci pour cette invitation. Comment a émergé l'intersectionnalité en France? Je dirais qu'elle a émergé et a été reçue différemment selon les milieux et peut-être les périodes historiques, selon les contextes, autrement dit. Du point de vue du mouvement militant antiraciste qui a émergé à partir des années 90, oui, dans les années 90, notamment dans les banlieues parisiennes, où j'avais eu quelques expériences vers la fin des années 1990, la question de l'intersectionnalité a émergé, d'une part à travers la reprise de documentaires ou de d'écrits, notamment d'Angela Davis. Je pense par exemple à une figure de féministe antiraciste, Camille Mona, qui a créé et porté un certain nombre d'actions associatives en banlieue parisienne et qui, très souvent, dans son travail avec les femmes de quartier, notamment, je l'avais rencontrée, moi, à Montreuil, dans ses rencontres et son travail auprès de femmes de quartier populaire, elle diffuse des documentaires et des entretiens avec Angela Davis. Donc, du point de vue d'un certain espace militant antiraciste, la question de l'intersectionnalité a été connue à travers la référence à des travaux, à des documentaires de féministes américaines. En même temps, le mouvement militant antiraciste, que ce soit le mouvement migratoire ou d'autres secteurs du mouvement militant, se sont intéressés à la question de l'intersectionnalité sans forcément utiliser le terme intersectionnalité, en utilisant des formules du style la double discrimination ou la triple discrimination. Et ces deux expressions, on les retrouve à la fois dans les écrits et dans les discours de groupes militants dans les banlieues parisiennes, bien avant l'émergence de la thématique de l'intersectionnalité. Peut-être que aussi dans le mouvement ou dans des espaces féministes majoritaires parisiennes, je pense par exemple à des écrits publiés par la Maison de Femmes à Paris, la question de la double violence a émergé sans forcément se référer à l'intersectionnalité ou au concept d'intersectionnalité. La question de la double violence, et parfois on trouve la thématique de la triple violence, mais surtout la double violence a émergé sans se référer au concept d'intersectionnalité et a été portée par des associations qui travaillent notamment avec des femmes migrantes ou demandeuses d'asile. À partir du début des années 2000, l'intersectionnalité émerge à l'université. C'est à l'université que le concept d'intersectionnalité émerge. Et là, il va émerger selon les tendances, peut-être. L'intersectionnalité va donner lieu à une analyse conceptuelle et théorique qui va peut-être la redéfinir par rapport à son histoire et à son contexte américain. L'intersectionnalité est un registre de pensée, et non pas un concept, un registre de pensée qui va ensuite être souvent réduit à un concept que certains auteurs féministes vont définir à travers la question de l'imbrication, d'autres à travers la question de l'articulation ou la consubstantialité des rapports sociaux de pouvoir. Et on verra à partir de la traduction de travaux de féministes noires américaines que des chercheurs féministes se situant à l'université en France vont reprendre le registre de pensée de l'intersectionnalité, mais sans forcément le contextualiser par rapport à la situation française, au contexte français. Et là, dans le mouvement, ou plutôt dans l'espace universitaire, l'intersectionnalité sera davantage un concept traduit et qui donnera d'ailleurs lieu à de nombreuses traductions de travaux de féministes noires entre 2000 et 2010. Et jusqu'à récemment, en tout cas, c'est à partir du début des années 2000 que l'intersectionnalité a émergé dans l'espace universitaire français. Après, à l'intérieur de l'espace universitaire, bien sûr, d'autres voix vont émerger, vont reprendre le registre de pensée de l'intersectionnalité et l'inscrire dans la continuité des réflexions et des actions que des groupes ou des chercheurs issus des anciennes colonies ou descendants de l'esclavage ont déjà développé. Et donc, certains chercheurs vont inscrire le concept d'intersectionnalité dans le registre de pensée anticolonialiste et antiraciste qui a déjà été porté par des chercheurs comme Frantz Fanon ou d'autres chercheurs francophones.
Et pour continuer, parce qu'en France, notamment dans le mouvement féministe, la question du racisme est abordée depuis notamment une dizaine d'années, surtout autour de la question du voile, qui est une question qui est assez divisée, en tout cas le mouvement féministe français, et que la question de l'imbrication des oppressions de sexe, de race, de classe a été, en tout cas, s'est cristallisée autour de cette question. Et on voulait savoir un peu qu'est-ce que tu penses des débats qui ont eu lieu autour de ces questions, ces questions-là.
Effectivement, le voile, le fameux voile a émergé dans le contexte d'émergence des traductions autour de l'intersectionnalité. Et beaucoup de chercheurs et aussi de militants, mais surtout de chercheurs, en l'occurrence ici, qui se sont, entre guillemets, appropriés le registre de pensée anglo-saxon sur l'intersectionnalité, se sont penchés sur la question du voile et ont du coup, interroger l'intersectionnalité par rapport au voile, en partant du cas des cas et des positions des jeunes filles voilées qui allaient être exclues de l'école. N'empêche, peut-être, là, on a pris un peu de recul par rapport au contexte des années 2003, 2004, 2005, où le débat sur le voile a été plus intense. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce débat a été d'abord imposé par le haut. Ce débat a émergé dans les espaces féministes et dans les circuits universitaires qui se penchaient sur l'intersectionnalité dans un contexte où il n'existait pas auparavant, où le débat ne se posait pas. Il a été posé par le haut, il a été posé par des membres du gouvernement ou bien d'autres représentants de partis politiques. Et les féministes et certains chercheurs, en tout cas des courants de féministes et des courants de chercheurs féministes, se sont saisis de ce débat en oubliant d'abord qu'il a été imposé par le haut et que peut-être il n'est pas essentiel, il n'est pas central dans une réflexion féministe. Ensuite, peut-être parce qu'il a été imposé par le haut, il a été développé entre majoritaires. Et donc, ce débat n'a pas forcément inclus les personnes concernées au premier degré, qui sont sûrement les personnes voilées, mais aussi les femmes voilées, mais aussi toutes celles qui sont supposées ou qui peuvent être assimilées au voile ou à l'islam, et ceux, bien sûr, qui sont supposés ou représentés comme les individus qui imposent le voile, qui imposeraient le voile. Un autre point par rapport au débat sur le voile, ou une autre question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ce débat a pu voiler, qu'est-ce qu'il a caché, quelles sont les réalités, et non pas les thématiques, quelles sont surtout les réalités que le voile et le débat sur le voile a pu dissimuler. Et de mon point de vue, la principale question que le voile a caché, c'est celle des discriminations racistes. On est passé d'un contexte où les discriminations étaient une problématique développée, émergée, mise en avant dans les structures militantes et de recherche. Le débat sur le voile a occulté la question de la lutte contre les discriminations, mais il a aussi occulté la question du travail, notamment dans les milieux féministes et dans la recherche féministe. Le mouvement féministe français, notamment le mouvement théorique, a fondé son histoire à travers une réflexion et des actions autour du travail des femmes. Le débat sur le voile a émergé dans un contexte qui allait peut-être ou qui est peut-être en train de redéfinir le féminisme, parce que ce débat a réduit le féminisme à une question culturaliste, identitaire, et a occulté le travail qui a pourtant été mis au centre de la réflexion féministe et au centre de l'oppression des femmes.
Et par rapport là, du coup, tu parlais sur comment a été reçu le concept d'intersectionnalité dans les mouvements universitaires. Et dans ton texte, l'article, peut-on faire de l'intersectionnalité sans les ex-coloniser ? Tu pointes aussi le fait que justement ça se réfère surtout à des textes, des groupes militants, des pensées qui viennent plus des États-Unis, d'Amérique du Nord. Et à ton avis, pourquoi du coup c'est plus occulté justement ce qui a été fait en France à ce niveau-là en fait ?
C'est vrai que les écrits et aussi la pensée qui allait émerger, reprendre le registre de pensée autour de l'intersectionnalité va se focaliser sur les productions scientifiques et plus ou moins militantes des États-Unis ou anglo-saxonnes. Parfois, on se réfère aussi à des travaux qui ont été faits en Grande-Bretagne. Et donc, ça interroge sur la coupure qui a été créée par rapport à l'histoire des recherches qui ont été faites sur ces questions en France, mais aussi dans le monde francophone, et donc dans les sociétés qui sont historiquement proches de la France, proches notamment par la colonisation. La référence au seul registre de pensée produit par des anglo-saxons resitue le féminisme dans une position binaire qui se pense dans une opposition entre guillemets, ou plutôt dans une continuité entre France, États-Unis, et donc qui oublie en quelque sorte le reste du monde, et notamment le monde francophone francophones, africains, entiers, et d'autres régions du monde qui font partie de la France ou qui sont reliées à l'histoire de la France par la colonisation.
Oui, du coup, ça fait aussi une absence de prise en compte du contexte historique spécifique, parce que c'est pas la même, enfin, par rapport à la colonisation, du coup, c'est pas la même histoire non plus si on parle du contexte français ou du contexte anglo-saxon.
Effectivement, l'histoire du mouvement féministe black américain se réfère à l'histoire de l'esclavage. Alors que les traductions ou les actions ou les références à ce concept, à ce registre de pensée en France ne s'appuient pas ou ne tirent pas des réflexions de l'histoire de la colonisation, et dans ce sens ça décontextualise par rapport à l'histoire française. Et c'est pour ça, avec Fatema Ait Belmadani, on se demande si on peut faire de l'intersectionnalité en France sans les ex-coloniser. Et bien sûr, on aurait pu aussi développer une analyse similaire sur la possibilité de faire de l'intersectionnalité sans les descendantes et les descendants des sociétés marquées par l'esclavage. Et dans les deux cas, en tout cas, il me semble que les productions théoriques et parfois aussi pratiques autour de l'intersectionnalité ont largement occulté les deux histoires coloniales et celle de l'esclavage en France, mais surtout coloniale, puisque c'est la question sur laquelle j'ai le plus travaillé.
On va faire une petite pause musicale.
Alors là, je crois qu'on va écouter un morceau de Black Barbie qui s'appelle « Ma négritude ».
Appelle-moi bébé, Black Barbie, la Barbie noire. Noir, ouais, c'est ça qui leur fait peur. Ma négritude, ma couleur. J'ai trop de flow, trop de phase, trop de punchline. Je suis trop forte, mais je suis trop noire à leurs yeux. Fuck it. Ce qu'ils savent pas, c'est qu'ils pourront pas m'arrêter. La rue m'a plébiscité.
Oh, ma négritude, c'est mon honneur. Ma négritude, leur fait peur. Ma négritude, c'est ma fierté. Ma négritude, ils sont vrais. Oh, ma négritude. Ma négritude, leur fait peur. Ma négritude, c'est leur fierté. Ma négritude, noir, c'est vrai.
J'suis trop noir pour l'industrie du rap. Les majors me boycottent, ils ne veulent pas de rappeuse black. J'suis trop noir, c'est pour ça qu'elle s'écarte. J'veux l'aider à traverser, elle croit que j'vais lui jouer son sac. J'suis trop noir, depuis quand c'est un crime. Une embrouille, c'est moi qu'ils embarquent alors que j'suis la victime. Trop noir pour faire la couverture de leur presse cosmopolitane. Marie-Claire, Marie-France, femme actuelle, déesse. Une négresse dans cette sphère coloniale. Limite pour percer, faudrait que j'danse avec des bananes autour de la taille. J'suis trop cramé, même si j'touchais une paye de PDG. Son appart, elle me l'aurait jamais loué. Mes frères, un peu trop basanés ou trop sombres, on les assimile à des glandés ou à des poseurs de bombes. Trop foncé pour ce pays qui est censé être ma patrie, qui me demande sans cesse mes papiers alors que je suis né ici. Fuck it.
Ma négritude, c'est mon honneur. Ma négritude, leur fait peur. Ma négritude, c'est ma fierté. Ma négritude, noir, c'est vrai. Ma négritude, c'est mon honneur. Ma négritude, leur fait peur. Ma négritude, c'est ma fierté. Ma négritude,
je suis trop black pour être présidente de la République. La France a toujours un train de retard sur les États-Unis d'Amérique. Trop renois, même si j'ai l'expérience professionnelle. Mon CV, il l'a mis direct à la poubelle. Trop foncé pour le bureau d'accueil d'une société mondaine. Le boss préfère donner ce poste à une arienne. Oui, les médias me craignent. Leur plus grande frayeur, c'est l'invasion des rappeuses couleur ébène. Ils savent que si j'arrive à rentrer, je laisserai ouvert toutes les portes pour mes sœurs victimes de leur boycott. Être black dans le rap game en France, c'est handicapant. Les maisons disent que je suis trop noir pour le disque diamant. Fuck it. Mon discours te choque, te sidère. Tu dis ça y est, la Barbie black, elle se prend pour une Black Panther. Mais les exemples que je t'ai cités, c'est du vécu. La France, pays de l'égalité. Tu te fourres le doigt dans fuck it.
Ma négritude, c'est mon honneur. Ma négritude, leur fait peur. Ma négritude, c'est ma fierté. Ma négritude, noir, c'est vrai. Ma négritude, c'est mon honneur. Ma négritude, leur fait peur.
certains la trouvent louche. Avec mon mec c'est fini, ses parents voulaient pas d'une galouche. Être noir c'est tendu quand on connaît pas son histoire. Les sœurs qui s'éclaircissent la peau ont perdu la mémoire. Pauvre négresse, ta couleur est dans tes gènes. Elle reviendra dès que tu cesseras d'appliquer ta crème cancérigène. Moi je suis noir, ouais, trop noir pour péter le score. Le futur nous dira qui a raison, qui a eu tort. Fuck it.
Vous êtes toujours sur Dégenré, l'émission féministe sur Radio Kaléidoscope, donc avec notre invitée Nassima Moujoud. On parlait avant du fait, la focalisation un peu de la question du voile dans les débats féministes aurait occulté la question du travail. Est-ce que tu peux plus développer sur ce sujet ?
Oui, pendant un certain nombre d'années, depuis presque de 2003, fin 2003 à 2005, voire récemment aussi, la thématique voile, et là je ne parle pas des personnes voilées ou du voile lui-même, mais de la thématique, c'est-à-dire la manière dont elle a été reprise, la place qui lui a été donnée, pas forcément par les personnes qui sont concernées au premier degré. La thématique voile a occulté le travail. De nombreux courants féministes ont été embarqués dans un débat imposé par le haut en oubliant la question du travail. Et dans ce sens, je pense qu'il existe un secteur du travail qu'on peut relier en termes de réflexion avec le voile. C'est le travail dans les services domestiques. Le travail dans les services domestiques est en quelque sorte l'opposé du voile. Il est l'opposé du voile parce que chacun des deux se situe dans un bout opposé d'un même processus qui consiste à invisibiliser la culture, plutôt à invisibiliser le travail, à survisibiliser la culture. Le voile est survisibilisé dans différents discours, différentes actions, et le travail, notamment dans les services domestiques qui continuent ou dans les services à la personne qui constituent l'un des principaux secteurs de travail laissé aux personnes issues de l'immigration, est invisibilisé. Et ce processus d'invisibilisation, survisibilisation rend ou crée une rupture à la fois avec le mouvement féministe français, comme je l'avais dit, qui a mis le travail au centre de la réflexion et de l'action sur l'oppression des femmes, et avec le mouvement féministe black américain, pour qui le travail dans les services domestiques, notamment, est l'un des points de départ dans les réflexions sur l'intersectionnalité, parce que les femmes noires étaient majoritaires ou étaient majoritairement assignées aux travaux dans les services domestiques. Et donc, elles étaient doublement opprimées en tant que femmes, aux femmes assignées au travail domestique, dans le cadre du domicile, au travail domestique gratuit et non rémunéré, et au travail dans les services domestiques, comme en tant que travail peu rémunéré, peu valorisé et racialisé.
Bah, par rapport à ça, est-ce que tu as l'impression que, par exemple, les mouvements féministes, on va dire, majoritaires, blancs, occidentaux, se seraient peu penchés sur cette question du travail domestique, parce que ça pose aussi la question des privilèges, justement, de cette imbrication-là de sexe, race, classe. Bah, ce que je veux dire par là, c'est étant donné que la répartition des tâches entre les hommes et les femmes n'a pas spécialement beaucoup changé depuis 40 ans, ça fait que l'émancipation, notamment le fait d'avoir un travail salarié pour les femmes blanches en Occident, ça repose aussi sur le fait qu'il y ait d'autres femmes qui prennent en charge une partie du travail domestique, que ce soit ménage, soins aux personnes, que ce soit les enfants, les personnes âgées, etc. Et que du coup, travailler là-dessus, ça pose aussi ces questions en fait, des privilèges.
Oui, bien sûr, ça pose la question des privilèges au niveau de la domination sociale, je dirais, parce que l'occultation de cette question renvoie aussi à l'histoire du féminisme théorique français qui depuis son émergence dans les années 70 notamment, a donné très peu de place à la question des services domestiques. Les services domestiques et la domesticité même ne datent pas d'aujourd'hui en France. Et ils ont toujours accompagné les migrations, que ce soit rurales ou de l'étranger. Et n'empêche, c'est une thématique qui trouve très peu de place dans les recherches sur dans les recherches féministes, y compris les recherches sur le travail qui se sont focalisées sur le travail domestique. C'est-à-dire le travail des femmes au sein de la famille ou au sein de l'unité domestique et le travail dans les services domestiques, à part quelques rares travaux ou textes comme celui de Geneviève Fraisse, le travail dans les services domestiques n'a pas attiré l'attention des chercheuses féministes. Et dernièrement, pendant les dernières années, cette thématique commence à émerger dans un contexte où l'égalité en termes de partage du travail domestique n'est pas encore atteinte. La question des services domestiques ou du travail dans les services domestiques émerge dans la recherche féministe, mais en la reliant à la mondialisation, et notamment à des femmes qui arrivent de pays du Sud et qui sont assimilées à des migrantes nouvelles, à des nouvelles migrantes dans le cadre de la mondialisation, alors que c'est un travail qui était certes assimilé ou qui est l'un des seuls qui a été historiquement laissé aux femmes migrantes, mais cette question ne date pas d'aujourd'hui. Elle a accompagné les processus migratoires en France et a marqué la vie et le vécu de femmes migrantes non privilégiées à travers les différentes étapes les différentes étapes de l'histoire de la migration en France.
Et par rapport à ça, on peut aussi voir que le travail domestique, comme le travail sexuel, sont un peu souvent en fait les seules sources de revenus possibles, notamment pour des femmes migrantes. Mais pour autant, de la même façon que sur le voile, on pourrait dire aussi que le discours féministe se focalise beaucoup là sur cette question de prostitution par rapport à travail du sexe, etc. Qu'est-ce que tu penses et quel parallèle on peut faire entre les deux, travail domestique, travail sexuel ?
Je commencerai d'abord par un parallèle avec le voile. Le parallèle entre prostitution et voile, j'avais parlé avant de parallèle entre guillemets entre voile et service domestique. Le parallèle qu'on peut-être faire entre voile et prostitution, c'est que les débats autour de ces deux questions ont émergé dans un même contexte historique, qui est celui du début des années 2000, à un moment où Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, et c'est lui-même qui a lancé le projet de loi pour la sécurité intérieure. Et c'est dans ce contexte-là de projet de loi pour la sécurité intérieure que le débat féministe a repris la question de la prostitution. Et à travers cette question, évoquer la question migratoire, parce que la question migratoire, à travers ses différentes dimensions, est aussi marginalisée dans les débats majoritaires féministes en France, et aussi dans les écrits. Le féminisme français, théorique français, a découvert la migration, entre guillemets, assez récemment. Si l'on prend en compte l'histoire du capitalisme et l'histoire de la France, le féminisme français s'est penché sur la question migratoire, sur l'analyse des mouvements migratoires dans le début des années 2000, dans le même contexte d'émergence de l'intersectionnalité, du voile. Et pour revenir sur ta question, le lien entre prostitution et services domestiques, ce sont deux secteurs d'activité, de rémunération, pour ne pas dire de travail, parce que, voilà, ça dépendra peut-être comment on définit le travail, mais en tout cas, ce sont deux secteurs de rémunération qui se posent et s'imposent de manière importante pour les femmes non privilégiées, notamment ici de l'immigration, puisque les personnes qui se prostituaient, qui ont été, entre guillemets, victimes de l'application de la loi de pénalisation du racolage passif, sont des migrantes issues de milieux populaires. Les personnes dont il s'agissait sont des personnes non privilégiées au niveau de la classe et du statut migratoire. Et donc la question des papiers, et par conséquent de l'expulsion, puisqu'il a été question d'expulser des personnes sans papier arrêtées pour racolage passif, ces questions ont concerné et concernent toujours des femmes issues de milieux populaires. Au départ, il était question de femmes prostituées, entre guillemets, issues d'Europe de l'Est, qui ont émergé dans le débat féministe, politique, médiatique à travers la figure des femmes de l'Est, mais il se trouve que cette figure de femme ou fille de l'Est a disparu au moment où les pays d'Europe de l'Est concernés ont intégré l'Union européenne. Et c'est la nouvelle figure de femme prostituée originaire de pays d'Afrique anglophone qui a émergé et qui a été assimilée à la question du trafic. Le trafic qui est repris par des chercheuses féministes de manière dramatique en diabolisant la question du trafic, le trafic par des hommes étrangers. Alors que les enquêtes de terrain auprès de ces femmes, je pense notamment à l'enquête ou à des travaux de Françoise Guillemot, qui fait partie des fondatrices de l'association Kaberia, effectivement, ces entretiens.
Donc je vais pour dire un mot, une association de santé communautaire, du coup, avec et pour les personnes prostituées, qui est située à Lyon.
Effectivement, et il y a l'autre section entre guillemets de Kaberia, c'est Grésilidis, qui est à Toulouse. Françoise Guillemot a montré que les femmes africaines concernées s'inscrivent dans un trafic, mais un trafic beaucoup moins dramatique et en tout cas qui est très différent de l'image qu'on donne du trafic au niveau médiatique et politique. Puisqu'il s'agissait de femmes qui ont cherché à migrer parce qu'elles n'avaient pas de possibilité d'obtenir le visa et qui se sont inscrites dans des réseaux, entre guillemets, de réseaux de 2-3 personnes, dont une personne, généralement un homme, puisque ce sont les hommes qui ont souvent davantage accès à des outils divers. Et ces hommes-là leur ont facilité le passage. Et en tout cas, ces femmes, certes, beaucoup d'entre elles n'ont pas choisi forcément de se prostituer, mais n'empêche, la prostitution se pose à elles comme une principale ressource dans un contexte de privation de droits, dans un contexte où elles se retrouvent sans papier et dans des situations de non-droit aux droits sociaux et politiques. Et en tout cas, oui, la manière dont on aborde ces deux, ou dont on invisibilise ces deux questions de prostitution et de services domestiques dans le féminisme renvoie davantage, à mon point de vue, à une question de domination sociale et une question d'occultation de la justice sociale.
Oui, en tout cas, c'est vrai que, au niveau de l'émission dégenrée, c'est un parallèle qu'on a souvent fait parce que ça s'est aussi imposé au niveau de lois répressives, en fait, cette question justement du voile et du travail sexuel, parce qu'au même moment, il y a eu des lois du coup qu'on considère comme nous comme sexistes et racistes, tout en utilisant soi-disant un discours féministe de protection des femmes, etc. Et du coup, on pouvait retrouver ça dans les deux lois. Enfin, les différentes lois d'ailleurs qu'il y a eu, parce qu'il y a eu des séries. Et aussi parce que les deux débats avaient quand même le même socle commun d'occulter la parole des premières concernées, en fait. Que ça soit sur la question du voile ou sur la question de la prostitution, on pouvait retrouver aussi cette même donnée de parler à la place d'eux et de vraiment ne pas laisser la parole aux premières, aux femmes concernées réellement par ces lois répressives. Peut-être avant de passer à une autre partie, on va écouter un morceau de Bilove qui s'appelle « Aux portes de l'islam ».
N'aiment pas les arabes mais apprécient le couscous. Les mêmes qui n'aiment pas savoir que leurs ancêtres couraient dans la brousse. Mon patron aime le reggae mais pas les dreadlocks. Nous vivons dans un monde de paradoxes. La culture est admirée et l'homme méprisé. Même le social s'embarrasse de préjugés. L'argent du père mais pas le beurre. Parlons du fanatisme, c'est de ça que les gens ont peur. Ou plus précisément du fanatique. Il faut s'en protéger, on appelle ça purification ethnique. Le racisme est un sous paroxysme. La crise engendre des crises de xénophobie. On expédie les différences à coups de génocide. Derrière ce délire de masse, quelqu'un décide. Quelqu'un ou quelques-uns à qui profite le drame de ceux qui ont franchi les portes de l'islam.
Aux portes de l'islam.
qui mélange maghrébin, musulman et intégriste. L'ignorance renforce la peur. Ce n'est plus assez de les faire passer pour des voleurs. Il faut qu'ils soient aussi terroristes. On les met tous dans le même sac, en vrac, à coups de matraque. Et tous les bien-pensants se croient-ils plus tolérants? Des prêtres aiment leurs prochains de trop près. Autrefois on les brûlait. Maintenant on ferme les yeux du moment qu'il a fermé. Le Vatican révoque des évêques qui l'ouvrent trop. Où est le réel blasphème? Trop de systèmes qui part à volo. Résultat, des hommes et des femmes sont de plus en plus nombreux à franchir les portes de l'islam.
On pense que
et toujours au nom de Dieu, on fait couler le sang. Trop de ferveur entraîne des actes destructifs. Tandis que le pontife interdit les préservatifs. À défaut de nos vies, peut-on sauver nos âmes si nous franchissons les portes de l'islam?
On pense que
vous êtes toujours sur Dégenré, l'émission féministe pour déranger sur Radio Kaléidoscope 97FM, une émission faite par des meufs, des queens et des trans. Aujourd'hui sur la question de l'intersectionnalité, c'est-à-dire le croisement des oppressions, quelque chose comme ça. On va vous parler d'un groupe qui s'appelle les LOX, les Lesbians of Color. Alors ce groupe, il a été créé en 2009 par des lesbiennes immigrées et immigrantes afro-américaines, seychelloises, djiboutiennes, indiennes, guadeloupéennes. Et elles ont mis en place un site internet qui s'appelle Espace d'expression Lesbian of Color. En 2010, c'est un groupe qui se définit comme autonome, non mixte et qui rassemble des lesbiennes qui se retrouvent par leur parcours migratoire, leur parcours d'exil, par leurs histoires liées au colonialisme et à l'esclavagisme et par leur expérience du racisme, de l'invisibilisation dans les milieux féministes et lesbiens, dans les milieux LGBT en général. Le groupe a été fondé à partir du constat qu'elles appellent l'expérience contradictoire d'inclusion et d'exclusion au sein des milieux féministes et LGBT, parce qu'en tant que lesbienne, on est amené à rejoindre des milieux lesbiens qui sont censés nous rassembler et nous ressembler. Et or, dans ces milieux, les lesbiennes de couleur, elles subissent l'exotisme, des attitudes maternalistes et paternalistes, ainsi que l'invisibilisation. C'est-à-dire, on est là, mais on ne nous voit pas, comme dirait Sabrine. Aussi, ce qui a motivé la fondation de ce groupe, c'est une approche de la lutte qui diffère fondamentalement des luttes qui sont faites au sein des associations LGBT, des luttes hiérarchisées, c'est-à-dire que les personnes vont lutter contre l'homophobie, la lesbophobie et pour le droit des femmes, mais en reléguant, voire en occultant la question de la race et des facteurs qui sous-tendent les rapports sociaux de race, de classe, dans la société en général. Et pour les LOX, c'est très important de dénoncer l'adhésion de certains groupes, de certaines personnes LGBT et la récupération de leurs discours à des fins racistes et xénophobes. Et voilà, elle cite souvent les femmes noires féministes qui ont apporté à leur réflexion, comme par exemple la coordination des femmes noires dans les années 70 en France, ou bien le groupe du 6 novembre, dont on pourra vous parler plus tard si vous voulez. Et elles ont voulu réagir à ce constat en créant leur propre espace pour rendre visibles leurs expressions lesbiennes de couleur, rompre avec une référence féministe et lesbienne unique, unicolore, uniforme, c'est-à-dire blanche. Donc les lesbiennes de couleur ont créé ce groupe pour exister à part entière. Et je cite, « pour être actrice de nos luttes, productrice de nos analyses, indépendante. » Et Sabrine, une des personnes qui a fondé ce groupe, cite Bell Hooks quand elle parle de décoloniser le féminisme. Donc là, on va écouter une partie de l'intervention de Sabrine, une des fondatrices d'Elox, aux UEH 2011, qui parle d'un exemple concret à propos de l'affiche invitant à la Marche des Fiertés 2011.
Et du coup, les UEH, c'est les universités d'été euro-méditerranéennes des homosexualités.
Il s'agit donc d'une affiche sur laquelle se positionnait un coq très fier, avec une crête rouge et puis une espèce de boa rouge sur fond bleu, et avec un slogan qui disait « En 2011, je marche et en 2012, je vote pour l'égalité ». Donc cette affiche a été rendue fièrement visible, donc a été lancée en tout cas officiellement le 11 avril. Et le 12 avril, deux initiatives ont mené des actions pour demander purement et simplement son retrait. Je rends hommage là à la page Facebook qui a été créée à cette initiative. Mais voilà, qui avait dénoncé le fait excluant et raciste de l'affiche. Et puis, il y a eu l'initiative des LOX. On a publié un texte qui s'intitulait « Basta, le racisme et la xénophobie au nom de la lutte contre l'homophobie ». Et c'était un article dans lequel, effectivement, nous avions dénoncé le caractère raciste, sexiste, et n'ayant pas peur des mots, bien évidemment, pétiniste, parce qu'effectivement, c'était un symbole hautement privilégié, hautement utilisé par le système vichyste. Alors, ce qui est intéressant à remarquer, à observer en tout cas, avec toute l'action et toute la dynamique qu'il y a eu autour du retrait de l'affiche, c'est que à aucun moment... Dans le retrait, dans l'abandon de l'affiche et dans le discours de Nicolas Gouguin, qui est donc le porte-parole de l'inter-LGBT, il n'a été question justement de ce caractère raciste, de ce caractère excluant, de ce caractère sexiste. À tout le moins, ils ont osé concéder que parce que le Refuge, qui est donc une association qui lutte contre la stigmatisation des jeunes homos, en tout cas qui luttent contre l'homophobie, parce que le Refuge s'est ému, qu'au final, le 19 juin, il y a eu le retrait définitif de l'affiche. Mais à aucun moment, on a évoqué en fait, toute l'analyse politique qui a été menée, notamment par les lesbiennes of color.
You're a superstar. We know who you are.
Oui, alors, je vais quand même vous lire ce que pensait l'inter-LGBT en lançant cette affiche. Il disait que, et je le cite, « Derrière cette affiche, l'intérêt, c'est d'interpeller le public beaucoup plus largement que le public LGBT ou associatif. » Ils ont tout réussi. Quant au Refuge, il disait « L'association regrette dans un communiqué que les personnes homosexuelles soient stigmatisées et réduites à des volatiles affublés de boa. Plus de 30 ans après la sortie du film, La cage aux folles, les clichés sont toujours véhiculés et atteignent leur paroxysme cette année. Bref, le psychologue passe un temps infini à déconstruire ces clichés intériorisés par les jeunes qui refusent leur homosexualité et sont dans un déni d'eux-mêmes. Autrement dit, le seul problème qu'avait vu le Refuge, Et tout à l'heure, quand je disais justement qu'il y avait une hiérarchie des luttes, homophobie, lesbophobie, mais pas autre chose, alors que nous, on est dans une approche intersectionnelle, je voudrais aussi rappeler que cette affiche donc a été quand même faite, réalisée avec une tendance politique qui est très connue, notamment socialiste, donc de gauche, et que son président, donc le président d'homosexualité et socialisme, a dit, je le cite, pour défendre cette affiche, aujourd'hui, alors que le mouvement LGBT se propose d'utiliser le coq, symbole de la nation, ce choix provoque la stupeur de beaucoup de militants. Doit-on comprendre que le Front National a gagné une bataille ? Or, nous, l'Ox, nous disons qu'à tout détournement de symbole, il y a une limite et qu'on ne peut pas rire et qu'on ne peut pas détourner n'importe quoi. Autre chose encore, donc le 20 avril, c'est-à-dire que l'affiche est officiellement abandonnée, Nicolas Gouguin, porte-parole de l'inter-LGBT, dit « Il est ridicule et infondé, il faut lire l'affiche au second degré. » Donc on est bêtes, nous les LOX, hein, ou les antiracistes, donc on n'a rien vu, on n'a pas d'humour, on est trop sérieuse. Et donc il dit, il rappelle qu'on ne défile pas derrière une affiche, et revendique donc le second degré. On est parti d'une caricature de l'État nationaliste. Ce coq n'était pas censé représenter tous les LGBT, ah bon ? Et renchérit en disant, le coq, d'abord, c'est un symbole de la France qu'on a décidé de détourner. Le coq n'est pas la propriété de l'extrême droite. Le boa, c'est un clin d'œil, une forme de transgression, de travestissement. On ne peut pas résumer tout le monde en une affiche. Le but, c'est d'alerter sur notre mot d'ordre. Pour l'égalité 2011, je marche. 2012, je vote. Et je termine en disant qu'il a, on connaît bien sûr l'arrogance de la France, hein, surtout dans le traitement post-colonial, qui ne reconnaît toujours pas ses responsabilités coloniales et post-coloniales, puisque effectivement les politiques d'immigration sont une conséquence de cette politique post-coloniale. Mais alors l'arrogance de Nicolas Gauguin est tout autant, puisqu'il se permet quand même de dire que l'objectif, c'est d'abord d'interpeller, d'attirer l'attention, et sur ce point, on peut dire qu'on a réussi. From just red and black, you started widening your palette, adding fresh colors to a newfound sketch, with the same old beat ringing up through your head, surrounded by the freaks, by your friends, by the dead, and your dreams led the way to the path that was so set. Bref, une fois que l'affiche a été abandonnée, on a essayé de faire un tour de toutes les presses qui a reporté l'abandon de l'affiche, et on a constaté effectivement que tout ou presque se contentait de réduire la cause et la raison de l'abandon de l'affiche juste à la stigmatisation des jeunes homos, donc à la lutte contre l'homophobie, occultant bien évidemment toutes les positions et les analyses qui ont été données, entre autres, par les lesbiennes of color. Et pire encore, il y a eu un texte qui a été écrit par la présidente du CGL, du Centre gay et lesbien de Paris, qui l'a intitulé Les ayatollahs de l'intérieur, autrement dit, et qui dénonçaient ceux et celles qui avaient initié des actions pour que cette affiche soit abandonnée, en nous traitant d'islamo-gauchistes, de violentes, de racistes, d'extrémistes. On ne sait pas dans quelle arène on joue. On est complètement apeuré. Et qui a été donc diffusé, bien évidemment, par Tétu, et que les LOX se sont donné, bien sûr, le droit de répondre, en écrivant un texte, en le diffusant, en le publiant, et en l'intitulant « Les lesbiennes of color sont politiquement incorrectes ». Donc, il faut reconnaître que le texte a été largement diffusé. On a eu effectivement des encouragements, même des recrues après. Mais c'est vrai que ça a posé quand même un vrai problème politique, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, eh bien, il y a des difficultés à déconstruire le concept de la blanchité et puis à reconnaître l'intersectionnalité de la lutte, quoi, des luttes of color et des luttes contre les différents rapports sociaux, rapports de pouvoir. Remember that we soldiers turn the lovers of the art. Our path is more clear with every kiss and every tear. Just keep your heart open and you'll receive everything that you deserve because you work it. Je vais conclure en disant que même si les milieux LGBT et féministes refusent de questionner la blanchité et refusent de reconnaître l'évidence de l'intersectionnalité des rapports sociaux, sexisme, racisme et classisme, nous pensons possible et nécessaire d'initier ou de rejoindre des luttes collectives avec les lesbiennes et féministes françaises dans le cadre d'alliances stratégiques, ponctuelles et à nos conditions. Que les choses soient claires. Les alliances sont possibles, mais encore faut-il effectivement respecter les règles de jeu des unes et des autres. En sachant que les LOC sont toujours à l'initiative des actions et ne se laissent pas guider, car il est important pour nous de créer nos propres opportunités ou de les saisir quand bon nous semble. Ainsi, nous maîtrisons les tenants et les aboutissants de nos actions, les modes d'organisation, ce qui est un impératif à notre objectif d'autonomie et à notre objectif de visibilisation de nos luttes et discours.
Just do what you do.
Bonjour, vous êtes toujours sur Dégenré. Nous venons d'écouter l'extrait d'une intervention de Sabrine, membre des LOX, montée avec un morceau de MC Moustache qui s'appelle « Do what you do ». Et donc, nous avons pu avoir un exemple concret d'un moment où la parole des lesbiennes de couleur n'a pas été entendue par le milieu militant LGBT. Et qui serait révélateur des mécanismes qui existent dans les milieux militants, mais qui existent sans doute aussi dans d'autres milieux, comme les milieux universitaires, par exemple. Et donc, Nassima, si tu as envie de réagir, tu peux.
Oui, je pense que Sabrine a dit l'essentiel sur le processus d'invisibilisation ou de racisme qui se reproduit dans l'espace militant. Elle s'est arrêtée sur l'espace ou sur des espaces homosexuels et sur des groupes lesbiens. Mais on peut un peu refaire la même analyse à propos d'espaces féministes. Et personnellement, l'un de mes premiers travaux, et en tout cas tout ce que je dis maintenant a démarré depuis les premiers jours où j'ai rencontré des femmes sans papier dans des associations de lutte pour l'autonomie juridique de sans papier et de demandeuses d'asile. Les premières rencontres avec ces femmes se sont effectuées, ces femmes qui sont sans papier, venues seules du Maroc et d'Algérie et parfois de Colombie. Venue seule, c'est-à-dire hors regroupement familial et non pas en tant qu'étudiante. Ils sont retrouvés sans papier et donc sont issus de milieux populaires parce que la majorité ou la totalité peut-être des personnes qui se retrouvent en situation irrégulière sont des personnes issues de milieux défavorisés, des descendants de l'immigration riche, qu'ils soient africaines ou autres, ne se retrouvent pas en situation de sans papier. Mais en tout cas, ces femmes sont en situation de sans papier. Et s'inscrivait dans des relations de solidarité avec des féministes, parfois des lesbiennes, qui dirigeaient, et c'est exprès que j'utilise le mot diriger, qui dirigeaient des associations ou des structures de soutien aux demandeuses d'asile. Ce qui m'avait étonnée dans mes rencontres avec ces femmes, c'est leur silence dans les milieux associatifs et autrement plutôt, le décalage entre leur comportement dans les milieux associatifs et leur comportement quand je les rencontre chez elles ou dans la rue. Dans les milieux associatifs féministes, ces femmes ne prennent pas la parole. Ne participent pas aux différentes activités et disent clairement, ou me disaient clairement qu'elles sont là uniquement pour avoir quelques informations sur les papiers. Elles savent qu'elles n'allaient pas forcément obtenir leur régularisation grâce au soutien des féministes qui crient haut et fort leur solidarité avec ces femmes. Mais elles étaient dans des démarches qui les incitaient à prendre de leur distance et voire à se méfier dans ces espaces. Les attitudes de ces femmes m'avaient interpellée et m'avaient poussée à réfléchir sur ce qui les pousse à se taire dans ces espaces. Et avec le temps, je me suis rendu compte que qu'étant de milieu populaire, donc peu susceptible de croire en l'éventuelle égalité avec des personnes ou des féministes de classe moyenne ou riche, elles ne se revendiquant pas du féminisme, ces femmes s'inscrivent d'emblée dans une relation inégalitaire, et en tout cas elles prennent d'emblée en compte la relation inégalitaire et développent d'autres ressources à l'extérieur des espaces associatifs. Et pour revenir sur ce qu'a dit Sabrine, sur la question de l'invisibilisation et sur le double discours peut-être aussi, ou le... Oui, je reprendrai l'idée de double discours, Sabrine n'en a pas parlé, mais cette question me semble intéressante parce qu'elle renvoie aux différentes thématiques qu'on a évoquées, que ce soit celle du voile, de la prostitution ou d'autres thématiques, bien sûr, en lien avec la question, entre guillemets, des droits des femmes dans l'immigration et immigration, et plus exactement la manière dont la thématique ou la question des droits des femmes est instrumentalisée en contexte français, en contexte migratoire français. Cette thématique est souvent mise en avant pour défendre les jeunes filles voilées, les prostituées, celles qu'on va marier par force ou celles qui se retrouvent dans des situations... entre guillemets, culturelle particulière, alors qu'en fait, la plupart des discours sur cette thématique, ou la plupart des discours qui reprennent cette thématique, sont suivis dans les contextes 2000 par des lois répressives. Et on peut se demander pourquoi le mouvement féministe continue, le mouvement féministe, en tout cas le mouvement féministe majoritaire, continue à les taire de manière publique. On sait qu'actuellement, le voile et la prostitution risquent de revenir. Le voile risque de revenir à travers la question du travail dans les écoles privées et à travers la thématique d'un nouveau projet de loi. La prostitution risque de revenir à travers la thématique ou le projet de pénalisation des clients. Les deux thèmes risquent de réapparaître dans l'espace public. Alors qu'elles posent toujours, qu'ils ont toujours posé la question de la double discours et de l'instrumentalisation par des lois répressives, et peut-être aussi cette l'émergence de cette thématique ou l'insistance et le retour de cette thématique peut nous amener à nous questionner sur la manière dont les mouvements militants, qu'ils soient homosexuels, féministes, s'inscrivent dans le contexte politique, s'inscrivent dans un rapport à l'État qui fait qu'on reprenne des thématiques mises en avant par le gouvernement ou par des institutions du pouvoir et qui nous font oublier l'essentiel. Ils nous font oublier l'essentiel, ils nous font oublier la question du travail, la question des discriminations, la question de l'égalité et de la justice sociale. Mais parfois, ils nous font oublier aussi la guerre. Ils nous font oublier la guerre et je pense que l'un des thèmes ou l'une des réalités qui donne peu de débat actuellement en France, alors qu'elle se pose de manière importante, notamment pour les femmes, c'est la question de la guerre au Mali. Et puis de penser à Aminata Traoré, qui est l'ancienne ministre de la Culture, qui avait démissionné dans l'ancien gouvernement malien, qui avait toujours eu un visa Schengen pour traverser l'espace européen et qui, dernièrement, elle avait tenté de renouveler son visa, mais l'ambassade ou le consulat allemand le lui a refusé. En précisant par écrit que le gouvernement français n'était pas pour qu'on lui accorde de visa vu ses positions contre la guerre au Mali. Et la figure d'Aminata Traoré, justement, cette attitude du gouvernement français ou cette attitude politique à l'égard de ces personnages renvoie aussi à la question de la double discours. D'une part, on met en avant l'intérêt des femmes pour justifier la guerre au Mali, comme la guerre dans d'autres contextes internationaux actuels, et d'autre part, on empêche des femmes de circuler librement. Et peut-être la prise en compte de thématiques occultées comme celle de la guerre et de la guerre au Mali plus particulièrement, et de toutes les guerres dans lesquelles nos propres États sont impliqués, la prise en compte de cette thématique nous rappelle à la fois la manière dont on tend à nous faire oublier les réalités qui se posent pour nous et pour les femmes, et puis la distance qu'on peut prendre par rapport aux thématiques mises en avant par les médias et par les politiques.
Juste par rapport à ça, pour vous donner aussi, si vous avez envie d'en savoir plus sur du coup les positionnements et le discours d'Aminata Traoré, il y a une de nos émissions camarades, donc l'émission Rien à signaler de Saint-Étienne, qu'on fait une émission avec une intervention d'Aminata Traoré qui était genre un mois avant en fait la déclaration de guerre de la France au Mali, et où c'est vraiment intéressant parce que du coup c'est aussi un mois avant, mais elle explique comment c'est sûr que ça va aller vers une guerre, quoi. Et cette émission, qui est faite par des camarades féministes de Saint-Étienne, vous pouvez l'écouter sur le site Radio Rageuse, qui est donc la plateforme d'émissions féministes de meufs, de queens, de trans francophones. Donc en tapant Radio Rageuse sur Internet, vous pouvez retrouver cette émission-là.
Et si c'est possible, je me permets d'ajouter une autre référence d'Aminata Traoré. C'est un texte qu'elle vient de dire il y a quelques semaines, voire quelques jours, qui s'appelle « Rendre le Mali aux Maliens », qui est accessible sur Internet, et où Aminata Traoré fait une analyse de l'instrumentalisation des femmes. Et c'est un très beau texte, fort et très intéressant sur... les effets du néolibéralisme en Mali et en France et en Afrique.
On va faire une pause musicale.
Je crois que c'est le morceau de Kerry James qui s'appelle Lettre à la République.
Oui, c'est un morceau qu'il a écrit et qui est sorti en période électorale l'année dernière et qui parle de lui-même.
Lettre à la République. À tous ces racistes à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant ces riches ont donneur de leçons. Pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant vous devez assumer. L'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. De monter aux tirailleurs sénégalais et aux Harki, qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes. Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français parqués entre immigrés. Faut être censé comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre. Pyromane et pompiers, votre mémoire est sélective. Vous n'êtes pas venus en paix, votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas, on le sait. Parce que décoloniser pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un crash, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond, ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narcotrafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Claire Stream? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au constat. Bande hypocrite, est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable. Et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques. Et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays des droits de l'homme. Difficile de sentir français. Sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité. S'acharne à discriminer les mêmes. s'ivoire. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends que je n'attends plus qu'elle-même.
Bonjour, vous êtes toujours sur Dégenrer, l'émission féministe pour déranger sur Radio Kaléidoscope 97FM et nous sommes toujours avec notre invitée Nassima Moujoud. Alors, tu as fait une étude dans des groupes de soutien aux sans-papiers, hein, des groupes non mixtes du point de vue du sexe, mais peux-tu nous en dire plus sur tes observations sur la répartition des tâches dans ces collectifs ?
Oui, effectivement, les femmes sans papier dont j'ai parlé tout à l'heure, que j'avais rencontrées entre 97 et 2007 peut-être, un petit peu plus, et que je continue bien sûr à revoir de différentes manières, s'inscrivaient dans des espaces militants non mixtes du point de vue du sexe, entre autres la Maison de Femmes à Paris. Or, dans cet espace, il y avait d'une part des analyses qui dominaient en quelque sorte, des analyses de féministes qui encadraient les lieux et qui supposaient assez facilement, assez simplement que ces femmes ne s'impliquaient pas, ne participaient pas et que peut-être parce qu'elles étaient culturellement peu formées ou bien parce qu'elles avaient différents engagements et n'avaient pas les outils pour s'impliquer. Et d'autre part, ces féministes qui encadraient les lieux ne voyaient pas les divisions des tâches qu'elles mettaient en place. Les analyses autour de la non-participation des femmes sans papier concernaient les caractéristiques de ces femmes, c'est-à-dire on renvoie l'analyse à l'autre, à la manière dont ces femmes peuvent se présenter ou à ce qu'elles représentent pour les féministes encadrantes. Et d'autre part, on développe très peu d'analyses où on ne voit pas la manière dont nous-mêmes, on amenait ces femmes à ne pas participer. Et peut-être on voulait pas qu'elles participent. D'ailleurs, l'une des femmes que j'ai rencontrées, au départ, je ne savais pas qu'elle avait un diplôme universitaire en Algérie et ne le disait pas forcément, puisqu'elle ne parlait pas beaucoup dans l'espace militant dont il s'agit. Militant associatif qui reçoit des financements publics pour travailler autour des questions d'autonomie et d'autres questions en lien avec les droits des femmes. Cette femme sans papier a pu obtenir sa régularisation. Elle est ensuite revenue dans la structure pour demander de faire du bénévolat. Et la personne qui l'avait accueillie dans la structure lui avait dit non, pas forcément. Autrement dit, elle ne voulait pas d'elle en tant que bénévole. Donc, les féministes qui encadraient les espaces dans lesquels j'avais mené mes observations incitaient en tout cas, dans le discours, incitaient les femmes à participer, mais supposaient qu'elles ne pouvaient pas participer parce qu'elles n'en avaient pas les moyens. Mais une fois que ces femmes se présentent pour le faire, elles ne sont pas forcément les bienvenues. Et par féministe, j'entends celles qui encadrent, parce que les femmes sans papier auxquelles je pense ici ne se revendiquent pas ou ne s'autodésignent pas forcément comme féministes. Ces féministes mettent en place des pratiques ou une sorte de division des tâches qui séparent radicalement entre elles et les femmes accueillies. Qui sépare radicalement entre les femmes. Les unes sont là pour témoigner, pour être informées, alors que les autres sont là pour analyser, pour comprendre, y compris ce que sont et ce que disent et ce que peuvent dire ou ne pas dire les femmes sans papier. Et en tout cas, il y a une division des tâches qui est assez importante, qui se manifeste à la fois lors de l'accueil et lors des activités, par exemple de fêtes, où certaines femmes peuvent être invitées à danser ou à faire de la cuisine, mais ne sont pas du tout invitées à participer à des réunions. Et c'est une femme sans papier justement, qui m'avait dit « Oui, on est les bienvenus pour faire la cuisine, mais pas pour assister aux réunions. Et je pense que de ce point de vue, les espaces féministes dont il s'agit ont à s'inspirer un peu des réflexions qui sont mises en place dans, des structures de travail social, y compris des MGC et d'autres structures qui ne se revendiquent pas forcément du féminisme et qui parviennent à développer des analyses entre guillemets plus intéressantes. Plus intéressantes, même si bien sûr elles peuvent être aussi réductrices. Mais en tout cas, si je compare à ce que j'avais observé dans les espaces féministes parisiens dont il s'agissait et ce que j'ai observé ou j'ai lu sur des espaces de travail social, je pense ou bien il y a peu de différence entre les deux espaces en termes de place accordée ou refusée aux femmes accueillies, ou bien le deuxième type d'espace, c'est-à-dire celui de travail social, a au moins eu le temps de réfléchir sur sa relation aux personnes accueillies, notamment aux femmes des quartiers, puisqu'on parle beaucoup de femmes. On a des MJC qui développent des analyses critiques sur la place des femmes accueillies, des femmes de quartier par exemple, en sachant que bien sûr cette place est toujours en marge des institutions concernées.
Merci. Maintenant, nous allons écouter un morceau de HK et les Saltimbanques qui s'appelle La Maman.
Du coup, c'est un morceau que tu as choisi toi, tu veux nous en dire un mot ou...
C'est un morceau que j'ai choisi parce que je le trouve sympa, agréable, et parce que c'est un chanteur que j'aime beaucoup, et aussi ça soulève une question assez forte qui est celle des violences policières. Et je pense, tout à l'heure j'ai évoqué les questions qui sont occultées dans le contexte du début des années 2000, dans le contexte de focalisation sur des thématiques identitaires, et je pense que les violences policières font partie des principales questions occultées, y compris par nos féministes, militantes ou universitaires, qui prenons en compte le racisme.
Tu vas l'écouter. Hey, c'est normal, c'est comme ça. Il y a mon fils à la télé. Le président, il a parlé. Il a dit c'est pas bien le chômage. Tous les jeunes, ils doivent travailler. Il a dit faut faire du nettoyage. En France, y'a trop d'étrangers. Y'a mon fils, t'as vu, j'avais raison. Quand je te dis, faut faire attention. Ici, on n'est pas chez nous. Faut pas chercher complications. Et si tu fais les 400 coups, ils vont te renvoyer dans la. Y'a mon fils, y'a la police,
Elle est venue à la maison. Elle a dit à Philippe et Trice que t'étais un mauvais garçon. Elle a dit à Philippe et Trice, tu vas y aller à la prison. Il y a mon fils, vraiment je comprends pas. Moi je t'ai donné toujours l'amour. J'ai occupé de toi tous les jours. Pourquoi la police elle vient chez moi? J'ai occupé de toi tous les jours. Pourquoi la police elle parle comme ça? La police elle a parlé, elle a pas bien parlé.
Bonsoir, vous êtes toujours sur Dégenré, sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Donc une émission sur l'imbrication des rapports d'oppression, notamment de sexe, de race, de classe, sur la question d'intersectionnalité avec notre invitée Nassima Moujoud. Alors notre émission arrive à sa fin. Bah, déjà, on voulait te remercier du coup d'être venue. Et puis on espère pourquoi pas te réinviter dans une prochaine émission de Dégenré. Et est-ce que tu avais des choses, quelque chose que tu aurais envie de rajouter pour la fin, pour conclure?
Oui, vous remercier de nouveau pour cette invitation et dire peut-être qu'on a évoqué ici notamment la manière dont les rapports de domination se reproduisent et s'entremêlent dans les espaces militants, mais que peut-être ces espaces restent à l'image de la société et que notre peut-être intérêt pour ces espaces ne doit pas se détacher de l'intérêt pour la société générale et que certains d'entre nous ont peut-être oublié cette continuité entre les espaces militants féministes ou homosexuels ou lesbiens et la société globale. En tout cas, voir la continuité et considérer ces espaces comme des lieux de reproduction de rapports plus généraux qui concernent la société globale et que le changement de société produira probablement des changements à l'intérieur de ces espaces.
Merci.
Et merci.
On peut faire un petit agenda de la semaine. Alors, en ce moment, à Grenoble, il y a un festival qui s'appelle « C'est l'anarchie ». 9 jours autour des idées et pratiques anarchistes. Et le jeudi 13, c'est-à-dire demain, si vous écoutez l'émission, le mercredi, à 14h à la BAF, 2 rue Chemin des Alpins, il y a un atelier d'économie féministe entre Meuf, Gwyn, Trans et PD. À 16h30, écoute collective de l'émission On n'est pas des cadeaux sur Bashback en mixité. Et le dimanche 16, une balade féministe à vélo dans la ville de Grenoble, dont le départ est prévu au 30 rue Marbeuf, à la Malaprise.
Et sinon, toujours dans les infos et l'agenda de ce qui se passe notamment à Grenoble, le 29 juin, donc c'est un samedi, donc toujours à la BAF, donc un centre social autogéré qui se trouve dans le quartier des Alpins, aux 2 chemins des Alpins, que vous pouvez rejoindre avec le tram à l'arrêt Malherbe par exemple. Il y aura un concert de hip-hop. Donc avec des meufs, des gwyn, des trans sur scène et des groupes qu'on kiffe, qui, dans les paroles, ça pourrait aussi mélanger justement ces histoires de sexe, race, classe. Et donc il y aura Riam de Paris, viscéralement déviant de Rhône-Alpes, MC Moustache d'Amsterdam. Et le programme n'est pas encore complètement calé, mais peut-être aussi d'autres groupes en attente de confirmation. Donc ça, c'est le samedi 29 juin. Et vous pouvez aussi retrouver ces informations-là sur le site d'Indie Media Grenoble. Eh ben, on va devoir se quitter. Et en dernier morceau, on voulait passer un morceau de la rappeuse La Galle qui s'appelle Frontière. Et merci d'être venue, Nassima. Et bonne soirée et à dans 15 jours.
Phosphore blanc pour mes peines, de la honte sur mes gènes, ils nous ont exploités sans gêne. Toutes nos ressources taries à échelle surhumaine. Je suis la peur au confinement de leurs nerfs et me larve avec torpeur aux quatre coins de leur enfer. Je suis tout ce qu'ils haïssent, ils en ont décidé ainsi. Le jour qui m'a amené ici a amorcé mon sursis. Nous n'ont jamais été inscrits en lettres capitales, sans drapeau, sans couleur, sans passe gouvernementale, pour des nations bâties à l'usure de nos sandales et qui se garderont bien de soulever tout scandale. Pour nous l'espoir lentement c'est tari par escale, entre charter, expulsion, univers carcéral. N'être à jamais la bête noire de ces chacals est mon ambition première. Je considère que c'est normal, le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Des drones, des gravières, des dettes en surenchère. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Des drones, des gravières, des dettes en surenchère. J'ai claqué la porte, il y a de ça fort longtemps. On ne croit plus à la paix, mais un violent réajustement. Et je brûle, me consume en quatre temps. Une ceinture à la taille, prête à faire feu sur vos jambes. Pour des générations acquises par nettoyage mental, acquises d'un examen de conscience radical. Si ce sol je foule encore, c'est pour que mes pas y restent imprimés après ma mort. Tu es né poussière, tu retourneras poussière. Les vautours chaque jour dévoreront tes viscères. Tu verras que rien ne sert d'espérer en vain, que la résignation pour toi est le plus court des chemins. Sur la brèche insolente et la branche ils ont scié, c'est qu'un rêve jamais brisé d'un à un. Les voir tomber, des racines asséchées de nos précieux oliviers, au pied des cubes de béton et des jardins aseptisés. On prend part à la réécriture du scénar quand les lumières s'éteignent, quand à nous s'offre le soir. Les murs se taisent, nos morts sur scène, mais réel est le cauchemar. Il ne s'agit que de temps pour que tous comprennent l'histoire. Du passage des frontières, du néant des carrières. Des drones, des gravières, des dettes en surenchère. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière.
Par-dessus pour être autre chose qu'hier.
Des drones, des gravières, des dettes en surenchère.
Pour une guerre à ciel ouvert.